Donc, le titre de l'enseignement de ce soir, j'ai appelé ça le retour de Jésus. Écoutez cet enseignement avec votre cœur et dans la dimension de la révélation et non pas avec une intelligence humaine et sondez les choses. Peut-être que ça va vous proposer d'autres visions de ce qui vous a été appris, d'autres programmations qui vous ont amené peut-être à regarder dans telle direction et puis Dieu était dans une autre. Mais voilà, le Seigneur, je crois qu'il peut parler de différentes manières et c'est important aujourd'hui d'entendre un petit peu toutes les perspectives pour pouvoir se faire une vision peut-être plus juste de certaines choses. Et donc, moi, je vais vous présenter peut-être une vue un peu différente de ce que vous avez pu apprendre sur le retour de Jésus, bibliquement, historiquement aussi. Donc après, vous pourrez vous faire vos points de vue. Il y a plusieurs visions d'eschatologie qui se tiennent Bible en main. Et le problème, ça va être aussi les contextes, l'histoire et comment on positionne certains événements pour pouvoir voilà, avoir une vue plus juste du plan de Dieu. Donc déjà, ce qui est important de comprendre, c'est que tout est à propos de la révélation du cœur du Père. Vous êtes d'accord? Tout est à propos de la révélation, même le premier verset dans le livre de l'Apocalypse, c'est révélation de Jésus-Christ. Donc ça nous donne une perspective de bonne nouvelle normalement, puisque l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Le mot Apocalypse veut dire à la base révélation. Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, si je dis à toutes les personnes que je croise dans les rues, je leur dis Apocalypse, quel référentiel vous avez derrière le mot Apocalypse? Tout de suite, dans leur pensée, Apocalypse Now, le film avec un tel, voilà, et tout un tas de visions terrifiantes, catastrophiques, voilà, la vision apocalyptique, c'est un peu ça. Et donc, dès qu'on met ce mot Apocalypse, plutôt que de pouvoir parler de révélation, bah, ça porte tout de suite une influence. Ça apporte un conditionnement. Si aujourd'hui je dis je t'aime à quelqu'un et qu'à chaque fois que je lui dis je t'aime, je suis en train d'éduquer mon enfant, je lui dis je t'aime et je vais lui casser le martinet dessus ou le nerf de bœuf dessus, ben son référentiel de l'amour, quand je vais lui parler que Dieu est un Dieu d'amour, il va pas forcément vouloir venir dans l'amour parce que pour lui le marqueur et le référentiel de l'amour, eh ben il a été voilé, il a été faussé. Donc aujourd'hui qu'on puisse lire les choses à travers non pas quelque chose de terrible, de terreur, de voilà, tout va péter et puis il n'y a plus d'espoir, mais plutôt à travers la révélation de Jésus-Christ et à travers une bonne nouvelle. C'est important de pouvoir avoir cette grille de lecture aussi. Tout vient à propos de la révélation et toutes les compréhensions de la Bible viennent de la révélation du cœur du Père, de l'amour de Dieu et de l'œuvre du tout accompli, du tout payé à la croix. Donc aujourd'hui, dire qu'on peut y arriver scientifiquement, c'est l'image que j'ai eue tout à l'heure là de quelqu'un qui se cassait la tête au tableau, 1 plus 1 égale 2, E égale MC2, la racine carrée 2, qui fait des plans et des choses comme ça et qui essaye de rafistoler avec sa force humaine de comprendre quelque chose, c'est plus simple, il nous dit redevenez comme des petits-enfants. Et c'est Dieu qui va révéler, et la Bible dit ce qu'il a caché aux sages, il l'a révélé aux petits-enfants. Donc Seigneur, là où on est fort, là où on pense avoir une grosse tronche et avoir tout compris, ben Seigneur, on veut déclarer que quand on est faible, là tu peux être fort, là tu peux nous révéler. Donc Seigneur, on veut pouvoir dire que finalement, peut-être qu'on ne sait pas, mais viens toi révéler qu'il reste que ce qui est bâti dans ta vision à toi, que ce qui est bâti par ton esprit, puisque le Seigneur, c'est l'esprit. Amen. Donc si je peux m'approcher de Dieu intellectuellement et tout comprendre, tout expliquer de Dieu juste parce que j'ai une grosse tête, ben, j'ai pas besoin de la grâce. Et c'est par ma capacité humaine que je m'approche de Dieu, alors que toute la Bible, c'est à propos d'un Dieu qui s'approche de nous. C'est pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est lui qui est venu nous chercher, c'est lui qui est venu payer, a envoyé son fils Jésus à la croix pour nous dire qu'il nous a tant aimés. Pourquoi c'est important d'avoir une vision juste, ou en tout cas un élargissement de notre vision pour ne pas rester avec des œillères où on est fermé, on regarde que dans telle ou telle perspective? Parce que aujourd'hui, bah comme en vélo, vous savez, les réalités physiques, c'est rien d'autre que le reflet des réalités spirituelles. Il nous dit spirituellement, ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Bon, bah physiquement, si tu sèmes des pommes de terre, tu vas récolter des pommes de terre. Les chiens vont pas faire des chats, on est bien d'accord. Il y a une logique de la semence, de la récolte. Et il nous dit qu'on est transformé à l'image de ce qu'on contemple bibliquement. Vous êtes d'accord? À travers le voile déchiré, nous contemplons Christ et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Donc on est transformé à l'image de ce qu'on contemple. Et vous savez qu'on a une autorité pour faire venir le royaume de Dieu sur la terre comme au ciel. Il nous a dit, ce que j'ai fait, vous le ferez aussi, même des plus grandes choses. Je vous ai donné les clés, le mandat de faire ces choses-là. Ben, aujourd'hui, si on est à l'image de Christ, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, eh ben, ce qu'on va penser, ce qu'on va appeler à l'existence, ça va prendre vie, ça va se concevoir. Donc on a une autorité pour influencer la société. Et la Bible, elle dit « un en chassera mille et deux en chasseront 10 000 ». C'est un principe spirituel que plus on est dans un commun accord à contempler une perspective et une vision, eh ben, plus on va créer ces choses-là, plus on va les attirer. Il y aurait tout un enseignement à faire plus profond, mais c'est simplement des réalités spirituelles que là où deux tombent d'accord, il y a quelque chose. Et si on demande quelque chose par la foi, eh ben, les choses se produisent. Mais la foi, on peut avoir foi en des choses qui ne viennent du royaume des ténèbres, et ça se produit aussi, vous êtes d'accord? Que j'ai craint, ce que j'ai contemplé par la foi, ça m'est arrivé, ce que j'ai redouté m'a atteint, dira Job. Donc ce que je contemple, même des choses pas justes, si l'ennemi il arrive à me pervertir une vision ou à me faire louper le but de la vision, et ben finalement, cette réalité, et corporativement, on va arriver à la vivre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre, on a besoin de la connaître, mais le mot connaître, c'est encore une connaissance depuis le haut, c'est pas quelque chose que je peux connaître intellectuellement. Comme en vélo ou comme en voiture, et ben c'est un principe spirituel, c'est qu'on va là où on regarde. Donc on va là où on regarde. C'est un principe spirituel, on est transformé à l'image de ce qu'on contemple. Donc si on n'est pas aligné sur la bonne perspective, la bonne finalité, est-ce que finalement on ne peut pas tourner dans le désert pendant 40 ans alors que le chemin pour aller à Canaan c'était tout droit? C'est pour ça qu'il est important de sonder, d'éprouver les choses. On ne dit pas de tout gober et de tout amasser sans sonder. La Bible nous dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est péché. Sondons avec le Saint-Esprit avant de manger, de dire ok, moi je valide les choses, si le Saint-Esprit nous valide, si ça se tient avec les Écritures, si ça se tient avec l'histoire, et surtout qu'est-ce que ça produit en nous et est-ce que ça nous amène une bonne nouvelle, puisque l'évangile ça doit nous amener, nous porter une bonne nouvelle. Est-ce que l'évangile qu'on nous prêche, est-ce que la finalité de certaines choses qu'on nous amène à être plus que vaincu ou plus que vainqueur? Ça, c'est important de sonder ces choses. Romains 8, à partir du verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Est-ce que ça nous amène une finalité où on est plus que vaincu ou plus que vainqueur? C'est important de contempler une perspective où c'est une bonne nouvelle, où on va être plus que vainqueur. Vous savez, si tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Bah, si nous revêtons l'homme nouveau et que nous fonctionnons dans l'homme nouveau, Jésus, il est le premier-né de la nouvelle création de parmi beaucoup de frères, c'est ce que la Bible elle nous enseigne. Et dans son corps glorifié, il a vaincu l'ennemi, c'est dans son corps de chair qu'il est vaincu. Enfin, qu'il n'est pas vaincu, qu'il a été cloué à la croix, mais cette chair, elle est morte pour qu'il puisse justement déchirer et clouer à la croix l'acte des ordonnances qui nous condamnait. Il a vaincu le contrat que l'ennemi avait. Pourquoi? Parce que le diable a fait tuer un juste et non pas quelqu'un de pécheur. Et il a pu vaincre ce contrat et déchirer l'acte des ordonnances qui nous condamnait en les clouant à la croix. Et donc Jésus, qui s'est assis dans les lieux célestes sur le trône de gloire, il a vaincu, il a récupéré les clés, il a écrasé toute la puissance de l'ennemi. Et donc si on télécharge cette nouvelle nature et qu'on la vit, puisqu'il a, il y a prévu qu'on arrive à la stature parfaite de Christ, les ministères pour équiper les saints sont là pour amener la compréhension de ces réalités-là. Ben l'ennemi ne peut pas vaincre l'homme nouveau qui s'est incarné dans la matière, il ne peut vaincre que ce qui vient en de la nature charnelle. Donc normalement, quand on a le focus juste, normalement, on doit fonctionner comme plus que vainqueur et non pas comme plus que vaincu. La révélation que Dieu est amour, 1 Jean 4, verset 7, nous l'avons connu, l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Jean 14, verset 11, on doit fonctionner comme Jésus et tout ce qu'on pourra appeler, vous savez, aujourd'hui, Jésus, l'ennemi, il ne peut pas le vaincre et il dit tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc on nous propose une perspective où finalement l'ennemi pourrait nous donner tellement fort qu'on serait tellement écrasé, tellement sous pression, tellement vaincu qu'il devrait nous extraire d'une réalité trop dure où l'ennemi serait tellement plus fort que nous. Jean 14 à partir du verset 11, croyez en moi, je suis dans le Père est en moi, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Donc on va faire des choses plus grandes encore que lui, parce qu'il est assis dans les lieux célestes, qu'il a vaincu et qu'il nous a donné l'autorité, la nouvelle naissance. Il nous a assis, pour ceux qui sont nés de nouveau, dans les lieux célestes avec Christ. Et quand on fonctionne dans cette dimension et qu'on l'amène sur la terre comme au ciel, est-ce que l'ennemi peut vaincre le Fils de Dieu à son image? Donc est-ce que l'ennemi peut vaincre Dieu finalement? Genèse 3, verset 14, « L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Eh bien, laissez-moi vous parler aujourd'hui. On parle du retour de Jésus. Jésus est à la porte, Jésus, on a dû l'appeler à la cuisine, donc il n'a pas ouvert la porte, Jésus s'est trompé de trousseau de clés, Jésus use de patience afin que tout soit si, donc il n'arrive pas à ouvrir la porte, c'est une serrure compliquée, il faut une serrure à code. Finalement, il revient, et vous regardez toute l'histoire du temps, Jésus revient, à chaque fois qu'il y a eu des guerres, des persécutions, et toutes les personnes... prophètes ouin ont commencé à dire « Oui, c'est ça, c'est les temps, oui, c'est ça, c'est le temps, oui, Jésus, oui, Jésus, oui, Jésus. » Et finalement, ben, on est là aujourd'hui, 1000 ans après, 500 ans après, et les choses ne se sont pas passées. Donc, c'est important de comprendre, la Bible nous dit, Hébreux 10 à partir du verset 11, pour bien comprendre quand Jésus reviendra, puisque aujourd'hui, Jésus revient, mais Jésus revient, et la révélation qu'on a, elle doit être alignée avec un fondement biblique, vous êtes d'accord? Hébreux 10 à partir du verset 11. « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. » Lui, donc Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Qu'est-ce qu'il attend ? Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Il attend que l'ennemi soit fait le marchepied de ses pieds. Christ est la tête de son corps, qui est l'Église. Qui c'est son pied? C'est nous, l'Église. Donc, qui c'est qui doit écraser la tête du serpent? On en revient à la Genèse. L'épouse, Ève, une symbolique prophétique, qui nous dit... Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête. Donc on va écraser la tête du serpent, c'est ce qui est prévu, on va faire du serpent le marchepied des pieds pour accueillir la gloire de Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible elle nous dit le serpent il mordra le talon. Est-ce que c'est biblique ça? Bien sûr, la Bible elle dit que ceux qui voudront marcher pieusement en Christ, ils seront persécutés. Quand est-ce que Jésus va revenir? Il attend, il n'est pas pressé, il est assis dans l'éternité, un jour est comme 1000 ans pour lui. Il attend quoi? Que l'Église ait fait de l'ennemi le marchepied de ses pieds. Il attend qu'on se lève et qu'on aille en conquête. Il attend qu'on... Il n'a pas donné sa vie pour que les trônes, les dominations, les puissances et les esprits méchants nous boxent et puis nous ridiculisent. Parce que l'ennemi a voulu détruire ses enfants, a voulu pervertir la nature adamique. La gloire de Dieu, c'est que là où les ténèbres ont abondé, la grâce va surabonder. Donc c'est par le nouvel Adam, c'est par la nouvelle création qu'il va écraser la tête du serpent. L'ennemi, il va rien avoir, il va rien lui laisser, Dieu. Il est déjà plus que vaincu. Si nous sommes plus que vainqueurs, il n'y a aucun domaine de possession qui lui appartient. Il n'y a aucun domaine qui va pouvoir détruire la création de Dieu. Il est venu pour racheter, il est venu pour réhabiliter, il est venu... pour détruire les œuvres du diable. Et puis, vous savez, beaucoup disent, oui, Jésus revient, mais la Bible, elle dit qu'il revient chercher aussi une église sans, une épouse sans rides et sans taches. Parce que moi, je vois pas mal de rides en ce moment avec du mascara et du fond de teint qui est obligé de cacher tout ça, parce que c'est pas si beau que ça, quoi. Donc, le Seigneur, il vient chercher une épouse préparée, sans rides, sans taches, il vient chercher une épouse glorieuse, plus que victorieuse. Vous êtes d'accord avec tout ça? 2 Pierre 3, verset 11. C'est pour ça qu'on va distinguer aujourd'hui le retour de Jésus de son avènement qui sont deux choses différentes. Et des fois, on confond le tout, on le mixe dans un shaker et on dit que c'est pareil. Alors que vous allez voir qu'il y a une différence. 2 Pierre 3, verset 11, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite, votre piété, tandis que vous attendez, et qu'est-ce qui se passe? Vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Vous imaginez, on peut hâter les choses. Pourquoi? Parce qu'il a voulu qu'on fasse notre part. Donc si on peut les hâter, on peut aussi les retarder par notre conduite. Il nous a voulu cohériter. Il nous a voulu coopérant, il est assis, lui se repose de son œuvre, il est là dans les lieux célestes et il dit voilà, je t'ai donné les clés, fais ta part, Père je leur ai donné la gloire que tu m'avais donnée. Nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Donc c'est important aujourd'hui de comprendre qu'est-ce que c'est l'avènement de Dieu, quel est le signe de son avènement. Matthieu 24, à partir du verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Donc qu'est-ce que c'est le contexte ici? C'est la destruction du temple. Il s'en allait au sortir du temple, il lui fit remarquer les constructions. Tiens, regarde ce temple, regarde les constructions, comment il est bâti. Et Jésus leur dit, voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? C'est toujours le même contexte de la destruction du temple. Quand ça arrivera, la destruction du temple? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et là, il n'est pas question de la fin du monde, la destruction du monde. Le mot monde en grec, c'est aion, qui veut dire la fin de cet âge, la fin de cette période. Donc en gros, il est en train de dire quel sera, dis-nous quand ça arrivera, la destruction du temple, et quel sera le signe de ton avènement. Le mot avènement, c'est de sa présence, de l'établissement de sa présence, et de la fin de cette période, la fin de cet âge, pour pouvoir rentrer dans l'ère de la grâce. C'est ce qu'il est en train de dire. Et Jésus leur dit, il faut qu'il y ait des choses qui arrivent avant. Il leur dit, prenez garde, personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés que ces choses arrivent, ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, vous livrera au tourment, plusieurs succomberont, il y aura des faux prophètes, il y aura l'iniquité se sera accrue, il y aura tout un tas de choses terribles. Il s'élèvera des faux prophètes, des faux Christ, ils feront des prodiges, ils séduiront, quelques lieux que soit le cadavres, là s'assembleront les aigles, l'avènement du Fils de l'homme, et le ciel et la terre, il finit au verset 35, et le ciel et la terre ne passeront, mais mes paroles ne passeront point. Au verset 34, il nous dit que cette génération, donc à qui il est en train de parler, ne passera pas que tout cela n'arrive. Tout ce qu'il vient de déclarer, il le dit à une génération, et il dit que toute cette génération verra ces choses, elle ne passera pas jusqu'à ce que toutes ces choses arrivent. La question aujourd'hui, c'est est-ce que les paroles de Jésus se sont réalisées? Puisqu'une génération biblique, ben c'est 40 ans. C'est la sortie du désert, c'est voilà, une génération bibliquement c'est 40 ans. Par exemple, 40 ans, les Hébreux ont erré dans le désert, 40 ans jusqu'à la génération qui a fait ce qui déplaisait à l'Éternel et était consumée. Est-ce que le jugement s'est accompli en l'an 70? Qu'est-ce qui s'est passé quand il disait ces choses-là? C'était à peu près dans les années 30. Et qu'est-ce qui s'est passé en 70, 40 ans après? Eh ben, on peut voir au niveau historique, effectivement, il y a eu la destruction du temple, oui ou non? Donc, il y a eu la destruction du temple. Et est-ce que tout ce qui devait arriver avant que le signe de l'établissement de son règne, de sa présence prenne place, c'était quoi le symbole du temple? C'était le symbole de la construction selon la loi, où on construisait quelque chose extérieur, mais Dieu, nous sommes son temple, et en fait, ça symbolise qu'il met fin à tous les autels de la loi, pour pouvoir faire le signe qu'on rentre dans l'établissement de son règne et de sa présence pleine et entière. Donc le jugement accompli en l'an 70. En 70, Jérusalem a été détruite au cours des 40 années après que Jésus a déclaré le jugement. 20 000 soldats romains sous l'ordre du général Titus ont entouré la ville et coupé tous les approvisionnements d'aliments pendant 4 mois pour que les gens meurent de faim. Est-ce qu'il y a eu des famines? Oui, ils sont morts de faim. Alors les soldats sont entrés dans la ville et ont impitoyablement tué plus d'un million de juifs. Les soldats ont mis le feu au temple et ont emmené 97 000 juifs en captivité. En cette époque, la population juive a été décimée. Historiquement, on connaît peu de choses sur la vie des juifs durant les 60 ans. Ce n'est qu'après 130-135 qu'ils ont commencé à se rassembler avec assez de force pour tenter une dernière rébellion contre Rome. Puis après 3 ans de lutte, les Romains ont été en mesure d'écraser cette rébellion, tuant 580 000 juifs en Israël. C'était aussi ce temps-là que le commandant romain a ordonné que le temple soit démoli totalement, si bien que chaque pierre a été emportée et que le terrain sur lequel le temple s'élevait a été entièrement labouré. Le temple a été détruit complètement comme Jésus l'avait prédit. Donc il y a eu des soldats romains qui sont venus dans les maisons pour piller, ils ont trouvé à l'intérieur des familles entières mortes, ceux qui moururent par la famille, ils ont été horrifiés en voyant cela et sont sortis sans rien toucher, mais bien qu'ils aient eu cette compassion pour ceux qui furent détruits de cette manière, ils n'ont pas eu la même pour ceux qui étaient toujours vivants, ils ont poursuivi tous ceux qui ont rencontré et obstrué même les ruelles avec leur mort et ont fait couler le sang dans toute la ville à un tel degré que le feu de beaucoup de maisons fut éteint par le sang des hommes. Et ça vous pouvez trouver ça dans la guerre des Juifs, un livre de Flavius Josèphe, qui est un historien juif qui a été emprisonné par l'armée romaine. Eusèbe de Césarée, qui est un père de l'Église, il disait « Ainsi s'accomplirent ces événements dans la seconde année du règne de Vespasien, 70 après Jésus-Christ, selon les paroles prophétiques de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Vous pouvez trouver cette référence dans Histoire ecclésiastique, livre roi, passage 7. C'est juste pour les références des personnes qui se questionnent. Le livre de Flavius Josèphe, c'est un petit pavé, comme ça, qui fait la taille d'un dictionnaire et qui est assez indigeste à pouvoir lire et à digérer. Mais bon, moi j'ai dû le faire pour les raisons que vous connaissez. John Wesley, qui est aussi un des pères du réveil, disait « Cela s'est réalisé exactement car après que le temple ait été brûlé, Titus, le général romain, a ordonné que ses fondations même soient arrachées. Après quoi la terre sur laquelle il s'élevait a été labourée par Turnus, Rufus, cette génération d'hommes vivant maintenant ne passera pas jusqu'à ce que ces choses soient accomplies. L'expression implique qu'une grande partie de cette génération soit décédée, mais pas entièrement. » Et c'est exactement ce qui s'est passé, car la ville et le temple ont été détruits 39 ou 40 ans après. Dans The Work of John Wesley, 1985, vous pouvez trouver ces choses-là. Qu'est-ce qu'il n'a pas resté pierre sur pierre? Est-ce qu'il n'y a pas eu des persécutions? Est-ce qu'il n'y a pas eu des tremblements de terre au niveau des séismes? Il y a des personnes qui ont pu retracer tous les séismes qui se sont passés à l'époque, et quand il y a eu la mort de Jésus à la croix, la terre a tremblé. C'est ce qui est dit dans la Bible. Donc il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des persécutions, il y a eu des famines, il y a eu des personnes même qui se sont levées dans le temple, où on dit dans Matthieu 24, versets 4 à 5, beaucoup prétendront être le Christ, prenez garde que personne ne vous séduise. John Wesley dit, effectivement, jamais autant d'imposteurs ne sont apparus dans le monde que quelques années avant la destruction de Jérusalem, sans doute parce que c'était le temps où les Juifs en général se sont attendus au Messie. Eusèbe de Césarée, après que le Seigneur a été pris dans le ciel, les démons présentent un certain nombre d'hommes qui ont prétendu être Dieu. Bède le Vénérable, car beaucoup sont venus quand la destruction planait sur Jérusalem en disant qu'ils étaient des Christ. Charles Spurgeon, un grand nombre d'imposteurs se sont présentés avant la destruction de Jérusalem criant qu'ils étaient loin de Dieu. Et si vous lisez le livre de Flavius Josèphe, vous allez voir qu'il y a eu des chars en guerre dans le ciel, il y a eu une armée qui était visible par beaucoup de personnes, il y a eu des signes incroyables qui se sont passés après la crucifixion. Les signes du Fils de l'Homme, le signe de l'avènement, de l'établissement de sa présence et de son règne, est-ce que ça s'est déjà accompli? Est-ce que ça s'est passé? Si on peut lire avec ce regard-là et qu'on projette que ces choses se sont passées avant la destruction du temple, oui, on peut dire que cette génération n'est pas passée sans que cela n'arrive. Et le plan de Dieu, qu'est-ce que c'est le plan de Dieu pour sa création? Est-ce que vous pensez que l'ennemi va détruire la terre et détruire la création? Le plan de Dieu, c'est qu'on ait la juste compréhension des choses. Romains 8, à partir du verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance. La création, elle espère. On est tiré de l'Adama. Que ton règne vienne, ton royaume, sur la terre comme au ciel. Et c'est sur l'Adama et sur l'Adam, comme c'est accompli dans la réalité céleste. Si la nouvelle création diffuse dans la matière et envahit la matière, la nouvelle création ne peut pas subir l'attaque du diable, la destruction et la mort. Donc si la création soupire et est ensevelie dans la grâce de Dieu, elle va être régénérée et rétablie dans le plan que l'ennemi a essayé de détruire. Vous comprenez? Donc la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Donc c'est important aujourd'hui de comprendre qu'on a notre part à faire pour pouvoir amener la manifestation du royaume et la gloire de Dieu, et que l'ennemi soit vaincu dans toutes les sphères de la société. Il a payé le prix pour que les trônes, les dominations, les puissances et les esprits méchants fléchissent le genou. Donc pour que les autorités, tout ce qui tient captif et qui vient amener un règne du royaume des ténèbres fléchisse le genou devant lui. Il n'a pas prévu un plan de fuite où on est plus que vaincu, il a prévu quelque chose où on est plus que vainqueur. Maintenant, je veux peut-être parler aussi d'une conception qu'on pourrait avoir de l'enlèvement. Peut-être ça commence à titiller des choses en vous, mais je veux simplement vous parler de certaines choses. On a certains passages, par exemple, qui nous dit « Paul, en les voyant, prit du courage, ensuite » ou le passage qui dit « Ensuite, nous les vivons qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Nous serons toujours avec le Seigneur. » Je vais vous donner une traduction de ces passages-là, dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 16. « Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Le mot nuée, ça signifie dans les nuages, dans le ciel. Nous serons enlevés dans le ciel, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le mot rencontre, c'est une apenthésis, c'est une rencontre, je vais développer après. Et le mot dans les airs, c'est dans son atmosphère. Donc, je vais développer un petit peu ce que c'est l'apenthésis. L'apenthésis, quand on va à la rencontre de quelqu'un, l'apenthésis, c'est pas le fait de partir avec lui et de s'en aller. C'est le fait d'être pris avec lui et puis de revenir. En fait, c'est le mot apenthésis, c'est le même mot que dans Actes 28, verset 15, quand de Rome vinrent à notre rencontre, apenthésis, jusqu'au forum d'Appius, aux trois tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce et Dieu prit courage. En fait, c'est aller à la rencontre de quelqu'un pour pouvoir après l'accueillir. Vous comprenez? Et donc, quand il dit que nous serons enlevés dans les nuées, on sera enlevés dans le ciel. Ceux qui seront restés ensemble seront enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur, à Penthesis, et nous serons ainsi toujours avec le Seigneur. Mais ce n'est pas prévu que ce soit une fuite, mais que ce soit un retour glorieux. Ma question, c'est aujourd'hui, quand on goûte à la nouvelle naissance, est-ce que nous sommes pas enlevés déjà dans la réalité céleste, puisqu'on est assis dans les lieux célestes avec Christ? Et est-ce qu'au contraire, on ne doit pas faire un apenthésis, c'est-à-dire amener le retour glorieux de ce qu'on a vécu quand il nous a pris avec lui, sur la terre comme au ciel? Je vais développer encore, hein, parce qu'il y en a qui me disent, mais alors, l'enlèvement, nanani, nanana, j'entends vos questions et vos pensées. Hein. Je vous présente une vision, vous n'êtes pas obligé d'adhérer, je ne dis pas que j'ai toute la vérité, je vous dis de sonder ce que Christ en vous vous dit de toutes ces choses qui sont libérées. Luc 17, à partir du verset 33, donc des choses qu'on prend souvent pour l'enlèvement. Celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra, et celui qui la perdra, la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux hommes qui seront dans un même lit, de deux personnes qui seront dans... de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. L'un sera pris, le mot en grec c'est aphiemi, qui veut dire l'un sera laissé, ça veut dire, c'est aphiemi qui veut dire envoyé, répudié, c'est le même mot qu'un mari qui divorce avec sa femme. Ne pas prendre quelqu'un comme compagnon, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne veut pas s'unir, c'est quelqu'un qui ne veut pas prendre quelqu'un comme compagnon. Un tel sera laissé, c'est quelqu'un qui ne voudra pas prendre quelqu'un comme compagnon, quelqu'un qui ne voudra pas se marier, qui ne voudra pas s'unir. Ensuite, un tel sera pris, paralambano, ça veut dire prendre quelqu'un avec soi, se joindre à lui, s'associer comme un compagnon, et c'est une métaphore d'accepter quelqu'un comme ce qu'il enseigne. On peut traduire aussi ce passage par un tel ne voudra pas prendre Jésus comme compagnon, et l'autre voudra le reconnaître tel qu'il enseigne. Et effectivement, quand on le reconnaît tel qu'il enseigne, on est enlevé avec lui dans la réalité céleste puisqu'on est d'en haut, vous êtes d'accord? Donc le Seigneur, il n'a pas prévu un plan de fuite, il a prévu un plan de conquête. Sa présence et être avec lui et l'établissement, le signe de son avènement, ça n'a rien à voir avec l'avènement du Seigneur. Ça, c'est le signe de la manifestation de l'établissement de son royaume qui commence à venir, et le retour final de Jésus, c'est quand l'ennemi aura été fait le marchepied de ses pieds bibliquement. Mais quand il vient, il ne vient pas pour nous enlever ou pour nous détruire, il vient pour enlever et finaliser le fait que tous les scandales et toutes les mauvaises choses vont être brûlées. Matthieu 13, verset 39. L'ennemi qui a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on arrache l'ivraie, qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. En fait, à la fin, il va jeter toutes les mauvaises choses qu'il veut épurer de cette création pour que la sainteté, la vie, la gloire de Dieu envahissent la création. Donc on traverserait toutes les tribulations, tout ce que j'ai donné avant, c'était ce qu'ils devaient vivre, cette génération n'est pas passée et que sans que tout cela n'arrive, donc ils l'ont vécu. Maintenant, est-ce qu'on ne va pas vivre des galères ou des complications quand on va se lever pour Dieu? Si, la Bible elle dit, le serpent nous mordra le talon. Et Jésus, il n'a pas prié que le diable il ne puisse pas vous attaquer. Il a dit, le diable vous a demandé pour vous passer au crible comme le froment. Mais moi, j'ai prié que votre foi ne défaille point. Donc, on va vivre des galères, on va vivre des temps. Alors, quelqu'un qui me dit, peux-tu ralentir ton rythme? Oui, alors est-ce qu'il faut que je redise des choses ou que je revoie certaines bases? Sinon, vous pourrez le réécouter, hein, c'est sur Internet. Le Seigneur, il a le plan que Dieu a. Je vous invite à regarder dans des lieux de réveil. Moi, j'ai eu un audio d'une personne qui était allée faire tous les lieux de réveil dans le monde où vraiment le royaume de Dieu commençait à toucher la création. Il disait qu'il a été témoin qu'il plantait des tomates et le lendemain, le plant poussait, 2 jours après, il récoltait des tomates. Parce que le ciel envahissait la terre, l'éternité envahissait le temps. Et aujourd'hui, même les animaux féroces qu'on a qui se mangent ou quoi, il dit, bah, le lion, il ira avec l'agneau, avec ci, avec ça, il n'y aura pas de mal, il n'y aura pas de dégâts quand il n'y aura plus cette notion de violence et de perversion de la création. Donc Dieu, il veut la franchir, il veut la libérer, il veut qu'elle prenne part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Maintenant, ça nous pose une question en tant qu'Église. Du coup, c'est plutôt que de chercher un plan de fuite où j'ai pas ma part, où l'ennemi va être trop fort, ou alors je me dissocie un peu des choses, ben, qu'est-ce que je fais pour pouvoir prendre ma place dans la bataille, aller en conquête? Et si j'ai envie d'hâter le retour du Seigneur, ben, est-ce que je me bouge un peu? Puisque je peux l'hâter, je peux aussi le retarder, vous êtes d'accord? Et donc, on a besoin de contempler la bonne perspective. On a besoin de se lever et de prier justement pour que les ouvriers aillent dans la moisson et non pas pour que les ouvriers commencent à se planquer dans des bunkers en attendant que ça pète, quoi. On a besoin d'aller en conquête, on a besoin que des personnes se lèvent en politique, on a besoin que des commerces se lèvent, financent les œuvres chrétiennes, que des personnes influencent la société et prennent part dans tous les postes de la société pour amener la conquête de Dieu. Donc c'est un plan de victoire et je vous conseille une vidéo qui parle d'un lieu de réveil où il y a eu un impact, on la trouve encore sur YouTube, cette vidéo elle s'appelle « La transformation d'Almolonga ». C'est un lieu où il y a eu un réveil, dans ce lieu de réveil la création a été bénie, des carottes qui poussaient sans OGM, elles faisaient la taille d'une jambe, les processus de récolte ont été accélérés par 3 ou 4, les 5 prisons de la ville où c'était un lieu de délinquance ont fermé, le territoire a tellement été béni, tellement été prospère, toute la création a été impactée. La transformation d'Almolonga. Et c'est ça, avec l'Assemblée Connectée, en tout cas, où je veux amener les personnes, c'est que justement, on doit se lever pour aller en conquête et faire que, justement, la tête de l'ennemi soit écrasée. C'est pour ça qu'on veut un réseau, un maillage et un impact, qu'on avance d'un même cœur et d'un même esprit. Parce que sinon, ben, on va louper le but et on peut tourner encore 40 ans. Et on peut écouter tout un tas d'enseignants, de machins. Là, je veux pas aller trop loin sur la révélation de l'Apocalypse. C'est simplement pour ouvrir une autre perspective aujourd'hui, c'est simplement pour faire jaillir une lumière et que vous commenciez à vous dire, bon, alors qu'est-ce qu'on fait, où on va, quoi, et à sonder ces choses-là. Mais il y aurait encore tellement à dire et tellement à démanteler de gros n'importe quoi qui est dit, soi-disant par des gens spécialistes, eschatologiques, je sais pas quoi. Bibliquement et même dans les traductions, eh ben, on ne retrouve pas certaines choses qu'ils enseignent, quoi. Donc c'est important aujourd'hui d'avoir plusieurs regards pour ne pas s'enfermer avec les œillères de la tradition où il dit « Vous annulez ma parole au profit de votre tradition ». Voilà un petit peu ce que je voulais déjà libérer sur le retour de Jésus, sur l'enlèvement, sur la différence entre l'avènement, le signe de l'avènement et l'avènement, qui sont des choses différentes. Je vous invite à vous documenter historiquement pour savoir ce qui s'est passé, les famines, les guerres, les persécutions. Vous serez aussi surpris que le nom de Néron César, qui est un nom d'homme, allez, je vous donne juste cette petite bille encore, Néron Caesarus, vous savez, si vous couplez toutes les lettres et que vous additionnez, bah, c'est un nombre d'homme et qui donne 666. En tout cas, je vous bénis et je prie que les choses puissent grandir. Seigneur, merci pour ta grâce et je prie que tu puisses amener les personnes dans la révélation, les compréhensions des réalités célestes, Seigneur, et qu'on ne s'enferme pas dans une tradition qui ne viendrait pas de toi ou qu'on ne dirait pas amen à des doctrines où il y aurait, la Bible a dit, on vous enseignera des doctrines et derrière, c'est des doctrines de démons. Eh bien, Seigneur, qu'on puisse adhérer à la doctrine juste et être convaincu de la doctrine juste et ne pas mettre foi à tout esprit et prouver, savoir s'il vient de Dieu. Et regardez tout ce que ça produit en vous. Vous avez une intimité avec le Père. Donc, n'hésitez pas à demander au Père qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il veut faire, que ce soit lui qui vous amène les convictions. Et aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu de réforme dans l'histoire et des personnes qui s'étaient levées pour porter une vision de réforme, ben, on en serait peut-être encore à payer des indulgences pour pouvoir accéder au paradis, quoi. Donc, et d'engraisser un système qui commence à faire du business sur le fait que les personnes sont voilées sur certaines révélations. Ok, en tout cas, bénédiction à tous. Voilà, n'hésitez pas à diffuser, transmettre, mettre un j'aime sur ces enseignements, vous abonner, pousser la visibilité de ces vidéos. Il y a encore d'autres choses qui arrivent, mais on va y aller petit à petit selon les saisons que Dieu veut libérer. Bénédiction à tous. Shalom, shalom.